Vous pouvez tourner dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode au chapitre 20. On va continuer ensemble la série dans les 10 commandements. Notre frère Serge va nous lire la parole de Dieu. On va aller ensemble brièvement dans un mot de prière avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu. Père éternel, nous venons devant toi parce que nous croyons, Seigneur, que tu es ici au milieu de nous. Comme tu étais présent sur le mont Sinaï, et que tu t'es manifesté, Seigneur, avec gloire et avec majesté, lorsque tu as donné cette loi, lorsque tu as donné ces paroles à Moïse, Seigneur, lorsque tu as gravé ces tables de la loi, tu es présent ici au milieu de nous. Père, on te prie de te manifester dans nos cœurs par ton Esprit Saint, en parlant à nos cœurs par ta parole, Seigneur. Viens et forme en nous, Seigneur, cette sainteté, cette droiture qui t'honore, te glorifie. Forme en nous ce plaisir, cette joie à marcher dans tes voies, Seigneur. Que la loi soit pour nous non un jugement, mais un guide, Seigneur. Un guide, Seigneur. Parce que toi seul, Jésus-Christ, as parfaitement obéi à la loi. Mais tu l'as fait afin que nous puissions maintenant marcher dans tes voies. Alors parle à nos cœurs ce matin. Viens nous rencontrer. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Le passage biblique ce matin est tiré du livre de Exode au chapitre 20, versets 1 à 15, dans l'édition Louis II. Exode au chapitre 20, versets 1 à 15. Extrait des 10 commandements, Exode 20, 1 à 15. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point.
Alors, la semaine dernière, on avait un PG qui aurait dû être un PA, il semble. Une mise en garde. Cette semaine, on a eu un autre pour vous. Et celle-là, il est de notre cru. Peut-être que vous êtes habitué de voir ça, mais c'est pas exactement ça le sens qu'on va lui donner ce matin, d'accord? Ce matin, on a un MA. On va appeler ça un Materialist Advisory. C'est bon? Alors, je vous avertis tout de suite, si les biens matériels, c'est un dieu dans votre vie, si vous aimez vos possessions, vous ne m'aimerez pas la face quand vous allez partir d'ici. Si vous êtes confortable à convoiter, à désirer, à posséder toujours le plus, vous ne m'aimerez pas la face quand vous allez partir d'ici. Ça se peut que vous soyez mal à l'aise, ça se peut que je vous dérange, ça se peut que vous partiez accablé de fardeau aussi, si vous réalisez tout ce que vous avez pris dans votre vie aussi. Mais on va s'en remettre à la grâce de Dieu. J'ai une belle image pour vous pour commencer ce matin. Un peintre, un illustrateur, je ne sais pas si vous connaissez Norman Rockwell. Il y en a qui connaissent Norman Rockwell? Super sympathique. Vous chercherez ça sur Internet. Les tableaux que ce monsieur-là a fait, c'est absolument extraordinaire. Décédé maintenant, mais pour les vieux comme moi, il a été un de nos contemporains, d'accord? Et c'est sympathique. Hein? Je ne sais pas si vous voyez bien la définition de l'image. Est-ce que vous êtes capable de comprendre la scène, ce qui est en train de se passer ici? On assiste à une transaction tout à fait, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, n'est-ce pas? Madame est en train de faire ses emplettes, puis Monsieur le boucher est en train de la servir. Et tous les deux sont candides et souriants, la vie est belle. Et discrètement, chacun pèse la balance de son côté. C'est cute, n'est-ce pas? C'est drôle. C'est sympathique. Puis en fait, on trouve ça cute, on trouve ça sympathique, parce que ça nous ressemble pas mal. Parce que ça en ressemble beaucoup à notre société en général. Tous ces petits vols, ces petits mensonges qui sont un petit peu cute parce que ça fait partie du train-train de la vie quotidienne. Parce qu'on est tous un peu comme ça. Et c'est ça qu'il est en train de dénoncer en réalité. Il est en train de dire, est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça? Mais lorsque ces petits vols-là se transforment en fraude énorme de 22,5 millions de dollars et que ça devient des édifices absolument fantastiques, extraordinairement colossal comme le CUSUM, l'hôpital universitaire de McGill, qui va rester là comme un monument. Je veux dire, c'est impressionnant. Cet édifice-là est absolument impressionnant. J'aime l'architecture, j'aime la créativité du mouvement qu'ils ont fait là. Ça va rester là comme un monument à la fraude et à la perversion du cœur humain. C'est incroyable. C'est incroyable. Potentiellement, la plus grande fraude de corruption de l'histoire du Canada, cette fraude probable de 22,5 millions chez SNC-Lavalin pour obtenir ce contrat-là. Et plus on en apprend encore cette semaine, plus ça devient sale. Et c'est fou parce que tout ça a servi à construire quoi? Un hôpital. Un hôpital. Comme si l'être humain, même lorsqu'il fait les plus belles choses, est incapable de le faire avec un cœur droit. Et lorsqu'on arrive à cette mesure-là de fraude et de corruption, de vol, là, ça nous scandalise. Là, ça nous offense. Là, ça nous choque. Là, on devient cynique. Peut-être pas lorsqu'on essaie de jouer avec la balance. Dans nos petits mensonges, dans nos petits vols à nous, au quotidien, au quotidien. Ce matin, on va voir ensemble qu'avec nos biens et avec ceux des autres, parce que c'est ça lorsqu'on parle de vol, avec nos biens et avec ceux des autres, nous pouvons d'une manière super concrète honorer Dieu et aimer les gens ou déshonorer Dieu et les gens qui nous entourent. Je répète ça, avec mes biens et ceux des autres, je peux de manière super concrète. D'accord, vous voulez que la foi, ça devienne concret, ça ne devient pas plus concret que lorsque je te pique ton char. Nous allons voir que d'une manière super concrète, on peut honorer et aimer les gens ou déshonorer Dieu et les gens qui sont autour de nous. Tu ne voleras point. Alors, définition du vol. À sa plus simple expression, le vol, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans permission. Est-ce qu'on peut s'entendre sur cette définition-là? Le vol, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas sans permission. Avant ça, c'était un emprunt. Sans permission, je peux essayer de m'en sortir en disant que c'était un emprunt. Mais ça n'est pas un, d'accord? À moins que ce soit écrit, prenez avec permission sans le demander. Mais le vol, c'est prendre quelque chose qui ne m'appartient pas sans permission. C'est simple comme ça. Et le terme qui est là dans le livre d'Exode, ganaf, veut dire emporter quelque chose, mais il y a le sens de, en anglais, stealth. OK? Comme, j'ai juste un vieux terme qu'on ne sert plus, subrepticement. En secret. D'accord? C'est prendre quelque chose en secret pour partir avec. C'est ça littéralement que le mot veut dire. D'accord? Et donc, ça veut dire, je ne veux pas me faire remarquer, je pars avec quelque chose. Maintenant, ce matin, je vais vous challenger. D'accord? Je ne suis pas ici pour vous dire vous êtes des bons chrétiens, vous êtes à l'église le dimanche, vous êtes en train de servir le Seigneur. Je suis ici pour vous dire la vérité et laisser Dieu appliquer ça à chacun de nos cœurs. Et laisser ensuite de ça l'Évangile venir nous guider à travers tout ça. D'accord? Parce que lorsqu'on parle de vol, tout le monde va s'entendre pour dire que c'est mal le vol. Mais après, on commence à philosopher. La semaine prochaine, on va parler de ne pas mentir, de ne pas se parjurer. Qu'est-ce que je fais? On va parler des sophistes, ces philosophes qui jouaient avec la langue pour sembler dire la vérité. Mais on fait ça avec ça aussi, d'accord? C'est simple, le vol, c'est mal. Oui, mais qu'est-ce que le vol? Mais je vais vous donner des exemples pratiques, d'accord? Qui, selon moi, sont difficilement contestable. Et puis, je ne suis pas en train de prétendre que cette liste-là est exhaustive, qu'elle est complète. Je pense que vous pourriez probablement la doubler, voire la tripler, d'accord? Mais voler, c'est quoi? C'est, par exemple, voler des objets à un ami. C'est du vol à l'étalage, coupable. C'est faire un emprunt qui n'est jamais retourné. C'est un vol. C'est faire un vol de banque, un cambriolage dans les maisons, rentrer par effraction dans des maisons, coupable. C'est faire un vol d'identité, une fraude bancaire. Mais allons un petit peu plus dans notre quotidien, d'accord? C'est voler mon employeur. Comment est-ce que je peux voler mon employeur? En volant du temps à ton employeur, en te traînant les bottes au travail, en faisant pas le travail pour lequel tu as été embauché, puis en traînant les bottes, en passant du temps sur Facebook pour ma vie personnelle, sur des heures payées par l'employeur, ou pire encore, me chercher un emploi sur LinkedIn pendant que je suis au travail. Je me fais payer par mon boss pour me trouver un nouvel job. Qu'est-ce que toi, bonhomme? Voler du matériel de bureau. Vous savez qu'il y a une étude américaine, évidemment on est Canadiens, on n'est pas aussi pire qu'eux autres, mais il y a une étude américaine qui dit qu'un employé moyen dans une compagnie aux États-Unis vole plus en temps et en matériel qu'un voleur moyen aux États-Unis. Heureusement, on est Canadiens, n'est-ce pas? Faire des appels longue distance au bureau, gonfler des factures de dépenses, déclarer des dépenses pour mon travail ou mon entreprise alors que ce n'est pas pour le travail, jouer à des jeux sur le web pendant des heures de travail. Maintenant, l'employeur aussi peut voler son employé, puis encore là, la liste pourrait être très, très longue. Promettre des choses à tes employés, ne pas honorer ta parole, exiger plus d'heures de travail à mes employés parce que c'est la culture de l'entreprise que ce qu'ils sont payés ou que ce qui était dans le contrat. On peut voler le gouvernement aussi, la société en général. On dit que lorsqu'on vole le gouvernement, c'est nous qu'on vole. Travailler en dessous de la table, travailler au noir, c'est du vol. Vous pourrez aller demander la permission si vous voulez. On a dit tantôt comme définition, c'est quoi? Prendre quelque chose à quelqu'un sans demander la permission. D'accord? Travailler en dessous de la table, travailler au noir, faire des fausses déclarations d'impôts, des compagnies qui cachent des profits, aussi des droits d'auteur dans des comptes à l'étranger. Il y a des vols de droits intellectuels extrêmement communs aussi, des droits d'auteur avec le web, c'est super facile. Copier de la musique. Vous savez que de plus en plus d'artistes autorisent que tu fasses des copies de ta musique? Il y a un musicien chrétien que j'aime énormément, c'est ça qu'il fait. Il est comme lucide, puis il dit « Pourquoi je ferais pécher tous mes auditeurs? » Fait qu'il dit « Faites un don si ça vous tente. » Ah, mais là, je suis légal, là, ça va. Copier de la musique. Copier de la musique sans l'autorisation des créateurs, de ceux qui ont les droits. Télécharger des films piratés sur le web. C'est du vol. Fausse déclaration aux assurances pour gonfler ma réclamation, ne pas payer pour des services que j'ai à payer, aller dans des places où c'est, contribution volontaire, puis me dire, ça sera la société qui contribuera. Moi, je ne contribuerai jamais. Il y a quelque chose de profondément malhonnête dans ça. « Honnêtement, je ne crois pas qu'il y a rien là-dedans qui est contestable. Et si vous avez un doute, c'est super facile à régler. Demandez la permission à celui qui est propriétaire. C'est simple. On a dit du vol, c'est prendre quelque chose qui ne m'appartient pas sans demander la permission. Alors, toutes les choses pour lesquelles vous auriez des doutes là-dedans, allez demander la permission. Si la personne qui est propriétaire vous dit, il n'y a pas de problème, c'est comme ça que je le voulais, votre conscience est claire. Votre conscience est claire. Mais si vous faites une de ces choses-là, là, vous êtes un voleur. Vous êtes un voleur. C'est ça que vous êtes. Cette semaine, Dieu m'a convaincu que j'étais un voleur. Je me suis dit, j'en trouverai pas un là-dedans pour moi, c'est sûr. Moi, j'aime les arts. J'aime les arts. Je capote sur tout ce qui est beau. Fait que je m'en vais sur le web, sur des sites où il y a des artistes qui font des créations incroyables, puis je les admire. Là. Je peux parler d'eux, là, des Norman Rockwell. Je fais juste prendre comme leurs images, puis je les copie pour mon screensaver, juste pour les voir, sans demander la permission, sans reconnaître c'est qui les auteurs. C'est du vol. Je m'en allais au volant, j'ai dit, Seigneur, je suis un voleur. Je suis un voleur, Seigneur. Il faut que je me repente de ça. Si vous êtes coupable d'une de ces choses-là, ayez l'intégrité de reconnaître ce que vous êtes. Vous êtes un voleur, une voleuse. Et arrêtez de philosopher, puis de tricoter, puis de faire n'importe quelle histoire pour vous dire « oui, mais tout le monde le fait, tout le monde est damné, copain. Je ne pense pas que ça va te sauver ben ben. » Tous des voleurs. Puis c'est un peu ça que les 10 commandements font avec nous. À date, on s'en est pas tiré à beaucoup de place, hein, n'est-ce pas? Probablement tous des adultères, tous des menteurs, tous des idolâtres. Et voilà, Yannick, merci. C'est le fun d'aller à l'église où tu prêches, hein? Maintenant, on est tous des voleurs. Probablement qu'on se retrouve à peu près tout le monde dans cette gang-là. Et ce qui est particulier avec ce péché-là, avec cette loi-là, c'est que on n'a pas besoin comme de tricoter puis de dire, bien, c'est le vol du cœur. Vous voyez? Avec l'idolâtrie, c'est ça qu'on a dit. Hein? Avec l'adultère, c'est ça qu'on a dit. On a dit, bien, t'es adultère si tu convoites. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Mais là, plus concrètement, même, on n'est pas rendu à la convoitise. Ça, c'est le dernier commandement. Ça va venir plus tard, ça. Non, non, on parle de vol. Il n'y a pas grand monde ici qui doit s'en sortir. Pas grand monde qui doit s'en sortir. Et on n'a même pas besoin de parler de vol du cœur. Martin Luther, grand réformateur du 16e siècle, voici ce qu'il avait à dire sur l'humanité, sur le vol. Si nous regardons l'humanité dans tous ses états, ce n'est rien d'autre qu'une grande écurie pleine de voleurs. Faites-vous-en pas, il est assez humble pour se mettre dans le tapon. Et il a émis l'hypothèse suivante de ce qui se passerait si on devait, parce qu'à l'époque on pendait les voleurs, et donc, il a émis l'hypothèse de ce qui se passerait si tous les voleurs étaient traduits en justice. Il a dit, ce n'est qu'une infime partie des voleurs qui sont pendus. Si nous devions les pendre tous, où trouverions-nous suffisamment de cordes? Nous devrions nous servir de nos ceintures et de nos bretelles pour y arriver. Tellement il y a des voleurs un peu partout. Le passage qui me venait à l'esprit cette semaine pendant que j'étais en train de préparer ça, j'ai le goût de vous le citer ce matin. Matthieu 6, 19 et 20, devant cette réalité-là, devant la réalité que les gens qui sont assis autour de vous ce matin, il y en a plusieurs d'entre eux, sinon la totalité, sont des voleurs. Puis quand vous sortez d'ici, ben ça ne devrait pas s'améliorer beaucoup. Le passage qui me venait, c'était le suivant. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il y a des voleurs partout. Fait que la meilleure chose que tu peux faire avec ton argent, c'est servir le royaume de Dieu, être généreux, donner, prendre soin des pauvres autour de toi. Peut-être que c'est des voleurs, mais tu es en train de le donner à Dieu, cet argent-là. Fait que tu n'as pas besoin de te casser la tête de la même manière. Et puis là, je dois terminer juste cette joyeuse partie-là en vous parlant d'un vol dont seuls les enfants de Dieu peuvent être coupables. Est-ce que c'est possible de voler Dieu? Alors, je vous le dis, là, si vous n'êtes pas familier avec la parole de Dieu, bouchez vos oreilles, vous allez dire, et voilà le pasteur qui parle, qui prêche pour sa paroisse. J'espère que non. Dans le livre de Malachie, dans l'Ancien Testament, le prophète Malachie a dit ceci au peuple de la part de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu? Et c'est Dieu qui parle à travers son prophète et il dit, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La majorité des chrétiens nieraient qu'ils volent Dieu, n'est-ce pas? Mais le peuple d'Israël aussi niait ça, avec véhémence, avec fermeté. Ils étaient convaincus qu'ils ne volaient pas Dieu, voyons donc. Puis Dieu leur dit, non, vous me volez, parce que vous savez ce que vous devriez me donner et vous le gardez pour vous. Puis en faisant cela, vous vous attirez mes jugements plutôt que vous attirez mes grâces, mes bénédictions. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, repentez-vous et donnez. Et voyez comment je vais être fidèle pour prendre soin de vous. Maintenant, vous êtes content qu'on soit dans le Nouveau Testament, hein? Puis qu'on soit là après la venue de Jésus-Christ. Et là, on se dit, oui, mais attends un petit peu, Yannick, les dîmes, les offrandes, l'Ancien Testament, c'est beau, il y avait une loi dans l'Ancien Testament. Nous, on est sous la liberté. On est sous la liberté, Yannick. On doit donner selon l'abondance de notre cœur. Et je pense que c'est vrai. Vous savez ce que je pense aussi? Je pense que la dîme, c'est un bon point de départ, je vous le dis. C'est comme ça qu'on, Esther et moi, on sert le Seigneur depuis toujours par sa grâce. On n'a pas toujours été parfaitement fidèles, mais toujours fidèles au principe. Et c'est ça qu'on poursuit, oui. Mais oui, je pense qu'il y a une grande liberté aussi. Là où j'ai de la difficulté, et ça m'est arrivé d'en discuter avec plusieurs chrétiens, d'accord? Là où j'ai de la difficulté, c'est lorsqu'on prend l'Évangile et la liberté qu'apporte l'Évangile pour servir notre égoïsme et notre chair. Avec un genre de raisonnement, personne n'a jamais osé me le dire comme ça, mais je sais que c'est ça qui se passe dans la tête, d'accord? Yannick, la Bible nous dit qu'on doit donner selon notre cœur. Je n'ai pas à cœur de donner plus. Et plus encore, la Bible me dit que si je fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Je n'ai pas la conviction de donner plus. Si je donnais plus, ce serait un péché. Vous volez Dieu. Vous volez Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en vous et il est là pour vous conduire dans cette liberté. Cette vraie liberté où mon cœur est attaché au royaume de Dieu plus qu'au bien de ce monde. Où mon cœur s'investit dans le royaume de Dieu, non seulement en donnant à l'Église, aux offrandes puis aux sacs d'offrandes qui passent, mais en donnant pour l'œuvre de Dieu, en aidant des gens, en étant généreux avec mes biens. Et lorsque l'Esprit de Dieu parle à votre cœur, dispose votre cœur dans cette direction-là, et que vous résistez parce que l'idole du matérialisme et là, dans votre vie, mais oui, les amis, vous êtes en train de voler Dieu à ce moment-là. C'est ça que vous êtes en train de faire. Alors, à quelque part, on est probablement tous des voleurs. Et certains d'entre nous, on doit faire des examens de conscience. Il y a des habitudes à changer. Il y a des disques durs qui doivent se vider cette semaine. Il y a des pratiques au travail qui doivent changer si on veut être honnête, si on veut être ce que Dieu nous appelle à être. Maintenant, il y a un remède drastique aussi. Il y a un remède drastique à ce péché-là qui est une forme d'idolâtrie, parce que c'est ça qu'on parle dans le fond, hein? quand les biens matériels, quand les possessions, quand ce que tu peux t'accaparer devient une idole dans ta vie, à ce moment-là, tu commets des vols, tu commences à voler, tu commences à t'accaparer, tu cherches toujours l'endroit où tu vas pouvoir le faire, puis où ta conscience peut-être ne t'accusera pas trop à ce moment-là. Et il y a un remède à ce mal-là qui est tellement répandu. Et le remède est très simple. Donner est le contraire de voler. Donner est le contraire de voler. Des fois, on cherche comme remède dans nos vies une manière de se contenir. Ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est pas de vous contenir qui est le remède. C'est justement de devenir généreux. Donner est le contraire de voler et c'est un gage, c'est un témoignage d'une bonne intendance. J'aimerais ça avoir 2 heures avec vous encore ce matin pour partir de plus loin puis faire une théologie des biens matériels. D'accord? Qu'est-ce que c'est les biens matériels aux yeux d'un chrétien? Bien, disons simplement que la bonne manière de se voir, c'est comme des intendants, des gestionnaires, des gérants des biens que Dieu nous confie. Et je vais vous lire une citation qui, j'espère, va clarifier ça assez rapidement pour vous. Ça vient de Jean Calvin, un autre des grands réformateurs, qui explique un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Jean Calvin dit, « Le jardin a été confié à Adam pour démontrer que nous possédons les choses que Dieu a remises entre nos mains à la condition de se contenter d'une sage utilisation de ses biens. Nous devrions donc prendre soin de ce que nous laissons derrière nous. Cette sagesse et cette modération à l'égard de ces bonnes choses que Dieu nous a données pour en jouir est appelée à devenir un style de vie. Que chacun se voie comme l'intendant de Dieu dans tout ce qu'il possède, ainsi il n'agira pas avec excès ni de manière corrompue. » Vous êtes des intendants. Tout comme Adam et Ève sont placés dans le jardin, puis Dieu leur dit, « Gérez les amis, vous êtes là pour gérer cela. Et en faisant ça, vous allez me ressembler. Et je vous regarde aller dans votre attitude avec tout ça. Et tout ce que vous possédez, votre temps, votre énergie, votre santé, vos biens matériels, vos biens intellectuels, tout ce que vous avez vous a été confié pour la gloire de Dieu. Vous êtes donc des intendants de ces choses, appelés à bien les gérer. Et la générosité est un remède extraordinaire à cette idole des biens matériels. » Ken Hughes, qu'on a eu dans une conférence avec son épouse, ici, a dit ceci. « Chaque fois que je donne, je déclare que l'argent ne me contrôle pas. La générosité perpétuelle, un petit peu compliqué ici, est une déification perpétuelle de l'argent. » D'accord? Chaque fois que je suis en train de donner, je suis en train de frapper cette idole potentielle des biens matériels, des possessions. Chaque fois que je prends ce comportement-là, je suis en train de dire non! Parce que je veux être généreux avec mon temps, avec mes biens, quand je les prête, quand je les partage, quand je les donne. Quand je ne compte pas, je suis en train, les vieux théologiens puritains auraient dit, je suis en train de mortifier la chair. Je suis en train de dire non à cette idole-là qui veut toujours revenir, puis grandir, puis prendre la possession de mon cœur. Un autre frère que j'apprécie énormément, Jerry Bridges, a dit, il y a 3 attitudes possibles envers les biens. 3 attitudes possibles envers les biens matériels, envers tout ce qu'on possède. La première, ce qui est à toi est à moi et je vais le prendre. La deuxième, ce qui est à moi et je le garde. Et la troisième, ce qui est à moi est à Dieu et je vais le partager. Et ça, c'est l'attitude qu'on doit chercher à avoir. C'est l'attitude qu'on doit chercher à avoir. Et chaque fois que des gens viennent nous demander d'emprunter notre voiture, et il y a une petite affaire qui vient et qui dit « Oh, Seigneur, protège-la. » Mais je suis en train de m'assurer justement que mon cœur reste à la bonne place. Voyez-vous, comme chrétien, comme enfant de Dieu, l'appel qui est placé sur nos vies, c'est de travailler avec l'énergie qu'on a, avec la force, avec l'intelligence qu'on a. C'est de travailler, mais pas seulement pour pourvoir à nos besoins et aux nôtres, comme ma famille immédiate. Mais Dieu me donne de travailler pour pourvoir à mes besoins et aux nôtres, comme à la famille de Dieu et à tous ceux que Dieu place sur mon chemin dans la mesure où je peux le faire. Avec une grande liberté, mais adopter cette attitude, ce style de vie, de dire « Seigneur, oui, ça ferait mon affaire d'en faire plus, de faire plus d'argent, et le but que je recherche, c'est de pouvoir être plus généreux encore avec ça, pour pouvoir te glorifier et investir là où la teigne et la rouille et les voleurs ne peuvent pas détruire. » Mais dans le royaume de Dieu, en donnant, en partageant, en pourvoyant, en pouvant aider des gens qui sont dans le besoin. Maintenant, ce matin, je dois adresser quelque chose de délicat, d'accord? Parce que je crois qu'une autre partie du remède à ce vol-là, c'est une véritable repentance, une profonde repentance. Et si j'ai des gens à troubler ce matin, c'est là que je vais les troubler, d'accord? Il y a un concept étranger à notre société dans les Écritures qui s'appelle la restitution. Ça n'existe pas dans notre société. Tu peux faire une fraude de 22 millions, tu caches ton argent, tu fais quelques années en prison, tu sors avec une tape sur les fesses. On va te checker un peu. Mais il y a ce concept dans les Écritures de la restitution, qui dit que dans la mesure du possible, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais chercher à lui remettre le mal que je lui ai fait, lui remettre du bien. Et donc, il y a toutes sortes de manières qu'on peut restituer. C'est là un petit peu, d'accord, lorsqu'on pense aux travaux compensatoires, les travaux communautaires, c'est un petit peu ça l'idée, d'accord, qui est là. Donc, anciennement, c'était très présent, ça l'est de moins en moins présent. Mais dans les Écritures, c'est super clair. On lit dans Exode 22, à peine après Exode 20, on n'est pas loin, d'accord? Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec infraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable d'un meurtre envers lui, mais si le soleil est levé, on sera coupable d'un meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant entre ses mains, il fera une restitution au double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne et qu'il laisse son bétail paître dans le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur produit de son champ et de sa vigne. Alors, on trouve un personnage dans le Nouveau Testament. Vous pouvez déjà y penser, il s'agit de Zachée. Qui, lorsqu'il rencontre Jésus, Zachée était un collecteur de taxes, un collecteur d'impôts, qui fraudait. Hein? Il fraudait le fisc en mettant de l'argent dans ses poches à lui, en exigeant davantage que ce qu'il devait charger comme impôt. Et puis, c'était entendu, le système fonctionnait comme ça. C'était un système corrompu à l'époque. Dieu merci, il n'y en a plus aujourd'hui, des systèmes corrompus. Mais c'était un système corrompu à l'époque où tout le monde se graissait la patte dans la ligne de l'engrenage, n'est-ce pas? Et lorsque Zachée en vient à rencontrer Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Zachée dit, je vais rendre 4 fois celui que j'ai volé. À tous ceux à qui j'ai volé. Et voyez-vous, vous avez un homme qui est touché par la parole de Dieu et qui, convaincu de son péché, spontanément, avec larmes, dit, en la mesure du possible, je vais faire ça. Je pense que je l'ai déjà partagé ici, en grande assemblée, mais je suis plus sûr. Mon Alzheimer progresse tranquillement. Mais quand je me suis converti, j'ai fait ça. Moi, c'était pas des gros délits que je commettais. J'en avais peut-être pour quelques milliers de dollars, pas plus. Alors, une des places qui était très claire, il y a des places où j'ai cherché, j'ai dit, Seigneur, si jamais je revois cette personne-là. Vous savez, c'est quoi un open house? On savait qu'il y en avait un pas loin, puis que tout le monde allait être en train de flyer là-dedans, personne ne nous verrait aller. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui a été fait dans cette maison-là, cette nuit-là. Le problème, c'est que j'étais high. je ne me rappelle pas c'est où. J'ai jamais pu réparer. J'ai pleuré en pensant à la jeune fille le lendemain matin quand ses parents sont revenus. Mais Dieu merci, dans d'autres cas, je savais, je connaissais les adresses. Aller cogner à la porte d'un gérant de magasin puis dire « j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te rencontrer ». Lui présenter un chèque, puis il me regarde en voulant dire « qu'est-ce que tu veux ?» Ben, j'ai dit « tu ne me connais pas, c'était pas toi qui étais ici à l'époque, mais disons que j'ai fait des emprunts, puis je voudrais venir les rembourser. » Il ne comprenait pas. « C'était qui, toi ?» Ben, j'ai parlé de Jésus. J'ai dit « je suis un disciple de Christ, j'ai changé ma vie, je veux réparer. » Jamais encaissé le chèque. Il ne comprenait pas. Je ne sais pas, il n'y avait peut-être pas de case dans sa comptabilité pour ça. Mais c'est vraiment un principe biblique, les amis. Et certains d'entre vous, là, vous êtes terrifiés, terrifiés devant l'idée de restituer, de rendre. Puis vous dites, mais Yannick, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de dire là. C'est des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de dollars que tu es en train de me dire que je devrais. C'est quoi que tu es en train de me dire là ce matin, Yannick? Je n'ai pas les réponses, les amis. Quand j'ai réalisé ça au jour de ma conversion dans les semaines qui ont suivi, sur le coup, là, honnêtement, j'ai eu vraiment peur. Puis j'ai commencé à discuter avec le Seigneur, puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là, Seigneur? C'est quoi que tu es en train de me dire là, Seigneur? Ça n'a pas de bon sens. J'ai fait tellement de conneries, Seigneur, ça n'a aucun bon sens. Je ne pourrais pas tout retracer ça, je ne pourrais pas réparer tout cela. Et j'ai décidé à ce moment-là, simplement, de faire cette prière devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je vais les prendre un à la fois, comme tu vas me les rappeler, et pour chacun d'entre eux, je vais chercher ta face. Je vais chercher ta face pour te laisser me diriger là-dedans. Quelqu'un qui m'a dit cette semaine, Yannick, tu as des devoirs pour nous énormes à toutes les semaines. Vous m'oubliez pas les couples, hein? Je vous en reparle dans 3 mois. Mais je vous donne un devoir cette semaine. Je vous donne un gros devoir cette semaine. Allez devant Dieu et demandez à Dieu si vous êtes un voleur. Si vous l'êtes, allez dans la prière et demandez à Dieu de vous montrer qu'est-ce que vous allez devoir faire avec ça. Qu'est-ce qui doit changer, premièrement? Qu'est-ce qui doit changer dans votre comportement, dans votre attitude, dans vos actions? Et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ce qui a été fait de vol dans le passé? Certains d'entre vous, c'est terrifiant ce que je suis en train de dire là. Je sais, je suis conscient de ça. Mais on va être sérieux avec cette patente-là ou on ne le sera pas. Hein? Jésus était sérieux. On va être sérieux avec cette affaire-là ou on ne le sera pas. Et peut-être que vous allez dire, écoute, j'en ai pour des mois à prier là-dessus, puis j'ai besoin de chercher la face de Dieu, puis j'ai besoin de vos conseils, puis j'ai besoin de vous rencontrer, puis j'ai besoin d'être accompagné là-dedans. Tu ne réalises pas de quoi on parle ici. Dieu va se glorifier si on est sérieux avec lui. Dieu va se glorifier si on est sérieux avec lui. Dieu va se glorifier si on est sérieux avec lui, les amis. Si on est sérieux avec lui. On va passer un temps de louange et je vais faire une petite parenthèse ce matin sur la loi. J'ai pas eu l'occasion vraiment de le faire avec la loi. Comment les chrétiens on doit traiter la loi? Comment on doit voir la loi? Nous on n'est plus sous la loi, tu sais. Puis à quelque part c'est peut-être ça que vous êtes en train de jongler avec, puis vous dites, OK, Dieu merci, il y en a qui n'ont rien compris, moi je ne suis plus sous la loi, donc tout ça, ce n'est pas pour moi, ces choses-là. Comment un chrétien deal avec la loi, d'accord? La loi, je vais le résumer en 3 choses, d'accord? Puis je crois que les 3, personnellement, tiennent pour le chrétien aussi. La loi a été donnée, premièrement, tout simplement pour nous révéler notre cœur, pour nous montrer notre cœur et nous montrer c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Et donc, dans un certain sens, contenir le mal en nous exposant. C'est quoi qui est bien? Et donc, pour cette raison-là, les commandements sont formulés comme la limite extérieure. Au lieu de dire « tu seras généreux », Dieu définit la limite. Il dit « celle-là, tu ne peux pas la franchir. Tu ne voleras pas. » Donc, c'est la première utilisation, la première fonction de la loi. La deuxième fonction de la loi, c'est de nous convaincre que nous sommes pécheurs. Et par vos témoignages, par ce que vous me dites depuis quelques semaines, ça marche. Ça marche vraiment. Parce qu'on est convaincu qu'on est pécheur. Et le but de ça, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous conduire à Jésus-Christ. C'est vraiment ça, la fonction primordiale de la loi dans un monde où on est tous des pécheurs. On est tous en défaut de cette loi-là. Voyez-vous, on est tous des voleurs parce qu'on a tous cherché à voler la gloire de Dieu à quelque part. On est tous des rebelles. Et donc, la loi est premièrement un miroir qui est placé devant nous et qui nous montre que nous n'arrivons pas à obéir à cette loi-là, à la respecter. Et cette loi-là vient nous conduire à Christ parce que lui seul a respecté la loi et je réalise que j'ai besoin de son sacrifice sur la croix pour le pardon de mes péchés. Ça va prendre un pardon. Je ne pourrai pas payer la dette en entier à Dieu. J'ai besoin de son pardon. C'est la fonction la plus importante de la loi. Maintenant, je crois aussi que la loi est là pour nous montrer comment on devrait vivre. La majorité des 10 commandements sont réitérés, réutilisés dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, par exemple, pour dire aux enfants d'honorer leurs parents, leur rappelle ce commandement-là en disant, « Vous qui êtes chrétiens, honorez vos parents. » C'est un des 10 commandements. Maintenant, ce qui change pour nous, c'est qu'une fois que j'ai accepté le sacrifice de Christ pour mes péchés, cette loi-là n'est plus un jugement constant sur moi. Je sais que je suis pécheur. Je sais que c'est uniquement par son sacrifice que je peux remplir cette loi-là. C'est par lui seulement que ça peut se faire. J'ai besoin de son pardon. Mais cette loi-là devient un guide. Un guide qui, par l'Esprit Saint, est utilisé de toutes sortes de manières. Et là où je veux aller avec ça, écoutez bien ceci. Si quelqu'un qui est religieux, qui est dans sa petite religion, sa religion elle a des barrières, des fences autour de lui qui définissent ça, il est toujours en train de dire, c'est quoi la limite? Quand est-ce que là, est-ce que je suis correct? Ou est-ce que là, je suis en train de pécher? Il est toujours en train de définir la ligne. Chaque fois qu'il est en train de lire la parole de Dieu, il dit, est-ce que je suis kosher? Non, là, ça chauffe, là, je suis correct. C'est comme ça que ça fonctionne, un religieux. Jésus vient puis il dit, vous n'avez pas compris? Dieu vous a donné la loi pour que vous alliez au cœur de la loi, dans l'esprit de la loi. Cherchez pas la limite, cherchez le centre, là où est la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire, tu ne vas pas seulement ne pas aller vers la femme d'un autre, tu ne vas même pas la convoiter dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu aimes ton épouse. Voyez-vous, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu n'es pas constamment en train de chercher la limite. Ce que tu veux, c'est être rempli de l'Esprit. Amen. Tu veux marcher au centre, rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu as approché ta future, là, tu es allé vers elle, là, t'es-tu allé comme avec la limite, avec le strict minimum en disant, « OK, regarde, on va mettre ça bien, bien clair. Tu vas me donner une liste super claire. C'est quoi que tu t'attends d'un bon mari? Je t'apporte deux fois par année des fleurs. Ça a l'air, les femmes aiment bien ça. Deux fois par année, c'est noté. Qu'est-ce que tu veux? À quelle heure tu veux que j'arrive? Tu veux que j'arrive à telle heure? C'est correct? T'aimerais, combien tu prends? Combien qu'il faut? Moi, j'ai pas besoin de décoller. Moi, je suis pas un toucheux, Yannick, c'est vrai, là. Je suis pas un toucheux. J'ai pas super gros besoin de ça. Fait que, Esther, t'en as besoin de combien par jour comme pour sa face là? 3 par jour, c'est correct? Je regarde ça, là, puis c'est bon pour moi. Je suis capable de faire ça. Fait que si je m'engage à faire ça, on se marie? Je veux dire, elle sauve en courant, la fille, là. Comprenez? C'est il est pathétique, le gars. Mais non, Dieu dit, tu vas avoir le meilleur de mon cœur. Tu vas avoir le meilleur de moi-même. Mes yeux vont être là juste pour toi. Je vais être là pour combler tes désirs. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que l'Esprit Saint de Dieu vient produire en nous. Alors, la loi pour le chrétien sert à quoi? Sert à discerner ce qui est bon, saint, agréable et parfait. Et on s'en va au cœur de la loi, puis on dit, « Seigneur, par ton esprit, sois créatif en moi. » Je veux pas seulement pas voler, je veux être généreux, Seigneur. Je veux pas seulement pas convoiter, je veux aimer, je veux donner. Je veux pas seulement ne pas haïr mon ennemi, je veux l'aimer, mon ennemi, Seigneur. Je veux aller au centre parce que je cherche la plénitude de l'Esprit Saint. Et donc, je lis ces lois-là et ce ne sont pas constamment des jugements sur moi. Mais c'est une joie, un encouragement, les amis. Alors, je vous ramène à la deuxième utilisation. La deuxième utilisation, c'est que la loi a été donnée pour nous convaincre de péché, nous convaincre qu'on est des pécheurs. Ce qui est absolument extraordinaire avec cette scène dernière où Jésus est crucifié, c'est que Jésus est crucifié entre deux voleurs. Voyez-vous, Jésus est venu mourir sur la croix pour des voleurs. L'un d'entre eux a méprisé Christ, jugé par la droiture de cet être-là, il l'a méprisé dans son cœur. Et l'autre s'est vu tel qu'il était, un pécheur, puis a été accablé par son péché, convaincu de péché dans la présence de Christ. Christ est la parole de Dieu. T'entrais dans sa présence, puis si tu avais moindrement d'humilité, boum! Lui est parfait, puis je suis tellement loin de ça. Et l'un de ces deux brigands a juste réussi à dire ceci. Seigneur, pense à moi quand tu vas être dans ton paradis. Pense à moi quand tu vas être avec ton Père. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les amis, on va aller dans la louange. Certains d'entre vous, vous êtes convaincus de péché ce matin. Certains d'entre vous, vous dites, il y en a qui est fou, je ne remets plus jamais le pied dans cette église-là. Ça vient de me coûter 25 000 piastres un matin, venir à cette église-là. Je ne sais pas où je m'en vais avec ça. Là, je suis troublé, il faut que j'aille voir mon banquier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je donne ma démission lundi matin. Christ est mort pour des voleurs. Et Dieu vous offre son pardon. Et si c'est à travers ce commandement-là que Dieu vous convainc que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de sa grâce, bien gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acceptez sa grâce, son pardon, et décidez simplement de le suivre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ta loi est tellement puissante, tellement droite. Et le cœur humain est tellement tortueux, Seigneur. Lorsque tu viens et tu mets ce barème, cette mesure à côté de nous, il ne faut pas avoir le compas dans l'œil pour voir à quel point on est tout croche. Seigneur Jésus, on veut s'approcher de toi ce matin parce que tu es la parole de Dieu et dans cette parole, nous avons trouvé la sainteté et la miséricorde. Seigneur Jésus, tu es sainteté et miséricorde, grâce et pardon et justice. Seigneur Jésus, viens parler à nos cœurs ce matin dans la louange. Viens nous aider à se tourner vers ta croix, Seigneur, et à se confier en toi. Amen.
crois vraiment que Dieu répond à sa promesse. Dieu nous instruit, Dieu nous dirige.